écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junière, des garçons aux yeux verts. Mise en scène, production Jean-Pierre Junière. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisé sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur.
Thank you.
passe la plus grande partie de ses journées dans la maison, ne pense plus à en sortir. Un matin, il se réveille. D'un coup, il voit la fille qui fouille dans son blouson. Prend son portefeuille et regarde. Il est surpris. Mais fait celui qui ne voit pas. Deux jours plus tard, un des garçons dit : le maître va venir nous visiter. Quel maître ? Le garçon lui répond : notre maître, celui à qui nous sommes. Notre maître, celui à qui nous sommes, oui. Il t'enseigne. Il enseigne sur terre. Tu iras avec nous au château pour l'enseignement. Guillaume est inquiet. Guillaume ne réagit pas. Il se sent tellement bien qu'il a peur de perdre le bien-être qu'il a avec eux. Dans l'après-midi, vient un homme, grand, maigre, cheveux et barbe blanche, habillé en costume gris. Il leur dit : bonjour mes enfants. Il voit Guillaume. La fille lui dit : il est des nôtres, il veut être des nôtres. L'homme s'approche de Guillaume et lui dit : je suis bien heureux de te voir, mon fils. Je suis le grand maître, représentant du salut sur terre, la déesse de toutes choses. Tu apprendras. Il les regarde tous et dit : nous allons tous au château. Il y a la grande réunion et les baptêmes. Guillaume est inquiet, dit : n'ose pas dire non. Toi aussi, mon fils, tu as été choisi. Tu as la marque. Il lui met le doigt sur le front. Je suis avec toi. Viens. Tu demanderas à tes parents une somme pour le baptême. La fille dit : j'en ai les moyens, maître. Je me suis renseigné. Bien, nous partons alors. Guillaume s'interdit de penser à ce qu'il fait. Il veut les suivre, c'est tout. Quitte la maison avec l'homme au regard profond. Et vont jusqu'à la gare de Perrache, l'île de la Pardieu. Arrivé à la gare de la Pardieu, il y a du monde. Ils sont musculés, tirés, tiraillés. C'est la course pour prendre le train. Il y en a peu, c'est à cause des grèves, et les gens en profitent dès qu'il y en a un pour le prendre. Guillaume suit comme il peut les autres. L'homme va prendre des billets. Et ils vont vers le quai. Tout à coup, Guillaume lève la tête et éblouit par une clarté. une langue. Il baisse la tête, regarde autour de lui, se trouve au milieu de la foule, ne voit plus ses amis. Perdu. Il se trouve au milieu des gens qui courent, qui vont, qui viennent. Il a beau aller dans tous les sens, au milieu de cette foule, et ne les retrouve pas. Si au moins il savait où il devait aller, il aurait pu voir sur le tableau d'affichage le numéro du quai, mais là, rien, rien. Après un moment, perdu dans cette foule qui le bouscule, et le sort, malgré lui, de la gare. Une fois dehors, il se dit que ça ne sert à rien de chercher. Il ne sait même pas où est la maison. Il s'en va penaud en se disant qu'il a perdu, qu'il les a perdus à jamais. Peut-être est-ce une bonne chose. C'était une erreur qu'il soit avec eux. En allant avec eux, il aurait été protégé malgré lui. Guillaume reprend sa vie, si l'on peut appeler ça comme ça. Continue à aller place du pont, mais a toujours aussi peur. Il n'y reste pas. Même des fois, il a tellement peur qu'il n'attend pas. Il s'en va sans avoir vu Ali. Un jour, le grand-père vient les voir. Il voit Guillaume et le trouve bizarre. Qu'est-ce qu'il a ? Elle lui dit, rien. Ça doit être l'adolescence. Tu es sûr qu'il a rien ? Mais pourquoi ? Comment le trouves-tu ? Je ne sais pas, mais il est bizarre. Et toi, comment ? Comment vas-tu, toi ?
Moi ? Ça va, enfin. Le travail, c'est de plus en plus difficile. On nous met sur les nerfs, le grand-père lui dit.
Je sais, c'est pour ça que j'ai pris ma retraite anticipée. Il devenait intolérable. Ils font exprès, c'est pour vous chasser. Ils veulent de la chair fraîche.
Et lui dit, mais moi, ils ne m'auront pas.
Et ton mari,
c'est la même chose.
Il lui dit, je vois. Oh, ta mère n'est pas venue, elle te passe le bonjour. Elle n'est pas bien. C'est pour ça qu'elle n'est pas venue.
Qu'a-t-elle ?
Rien. Mais elle se fait du souci. On ne fait que de nous envoyer du courrier, ben des papiers pour des maisons de retraite. Alors, ça l'énerve. Le groupe veut nous avoir à la longue. Tu comprends ? Si on rentre dans une de leurs maisons, ils héritent de tout. Mais moi, je ne veux pas. J'ai ma famille.
Elle lui dit, c'est des salopards, ces gens. Et je ne parle pas de la direction de Paris. Bien sûr, il paraît qu'il y a un dénommé Harold, un homme à poigne.
Le grand-père lui dit, eh oui, sans compter la Judith Claire, celle-là. Elle sait comment y faire pour monter les échelons. C'est une vraie garce. Il paraît qu'elle porte la poisse à tous ses supérieurs. Ils mordent tous
pour lui laisser la place. C'est louche. Mais personne ne dit rien, parce que les francs blancs l'adorent. L'ange lui dit, il va leur céder sa place. Il lui dit, là, ce sera plus compliqué, il a un fils. Et lui dit, un bon à rien. Son père lui dit, pas la peine d'être pour quelque chose pour hériter de son père. Bon, je vais voir votre héritier, qui lui ne semble pas d'être en forme. Il se lève pour aller à l'étage voir son petit-fils. Entrez. Il entre. Guillaume était allongé en voyant son grand-père. Il se redresse, grand-père. Lui dit, tu étais allongé? Oui. Fatigué? Non, pas la peine d'être fatigué pour s'allonger. T'as raison. Ça permet de réfléchir. Alors comment ça va? Guillaume lui dit gêné. Ça va. Tu as l'air bien pâle et maigre. Tu ne manges pas? Si, ça va. Et tes études? Ça va. Littérature? Oui. Qu'est-ce que tu lis en ce moment? Des choses. Ça n'a pas l'air de t'intéresser. Guillaume lui dit. Des fois oui, des fois non. Et vous étudiez quoi? Un peu de tout. Grand-père riait dit. Tes professeurs ont l'air d'être des fantoches. Ils prennent au hasard comme ça un auteur. Et voilà. Guillaume lui dit, tu sais, les études, c'est plus comme de ton temps. C'est ce que je vois. Tu me mens que ça te plaît. Tu dois être. Tu dois aussi te distraire, j'espère. Oui, un peu, pas trop. Grand-père s'assoit sur le rebord du lit, défait. Assieds-toi, toi aussi. Guillaume lui dit. Mais, et maman, elle va nous attendre. Ça n'a pas d'importance. Elle peut bien attendre un peu, comme tu dis. Guillaume s'assoit. À côté de son grand-père. Il est un peu gêné, grand-père lui dit. Je vois, c'est que tu n'es pas très enthousiaste pour ce que tu fais. Qu'est-ce que tu aimerais faire? Qui te ferait plaisir? Guillaume aux épaules dit, je sais pas. Et c'est vrai qu'il ne voit pas. À part le cannabis, il n'a rien. Il n'a envie de rien. Grand-père lui demande. Un petit voyage? Je sais pas. Même pas ça. C'est pas normal que tu n'aies aucun goût, désir. Ton père m'a écrit pour me dire que quelques livres de sa bibliothèque avaient disparu. Est-ce toi? Guillaume devient tout rouge. Je ne le dirai pas. Mais il ne faut plus le faire. Ce qui est à tes parents est à toi aussi. Donc, en volant tes parents, tu te voles. Tu comprends? Je ne te juge pas, mais je te demande, c'est d'arrêter. On ne te donne pas assez d'argent de poche? Guillaume lui dit, si. Alors, rien. Si tu as besoin de tant d'argent, parce que les livres que tu as vendus étaient de prix, et ont dû te rapporter gros, enfin, si tu ne t'es pas fait rouler. Écoute-moi bien, je dirai à ton père que ce n'est pas toi. Tu as compris? Mais tu veux me faire le plaisir de plus me le dire. de plus le faire, je veux dire. Et tu vas me donner le nom du libraire. Je vais les racheter. Et je les remettrai en cachette dans la bibliothèque, ni vu ni connu. Même ton père, qui a beaucoup de livres, ne saura pas que je les ai remis. Et je lui dirai qu'il a mal vu. Ça va, Guillaume est tout rouge. Oui, grand-père sourit, lui dit. On fait tous des boutiges. Je t'en veux pas, mon petit. Mais si tu as besoin d'argent, demande-le-moi. Tu es d'accord? Oui. Merci. Guillaume n'aura jamais demandé de l'argent à son grand-père. Il aurait trop honte. Son grand-père, en étant trop cool, gentil, ne l'aide pas. Parce qu'il ne cherche pas à savoir pourquoi Guillaume a volé. Il craint d'être trop ferme pour lui. J'aurais dû être plus ferme pour et lui demander, le forcer et lui demander pourquoi le vol. Comme ça, Guillaume aurait pu être aidé. La bonté peut plus de mal que le mal. Désormais, Guillaume se trouve encore plus seul à cause d'un geste de bonté, seul avec ses fantômes. Le grand-père lui dit, donne-moi l'adresse du libraire. Guillaume la lui écrit et la lui donne. Le grand-père n'a rien dit. Guillaume reprend sa vie de cauchemar, mais il en aime encore plus son grand-père. Le temps passe. Dans une rue, il rencontre une fille d'à peu près son âge. Elle est grande, maigre, cheveux noirs tombants, visage dur, allongé. Elle dit « Salut, tu étais à la réunion de la cellule communiste à Velasquez ?» Il lui répond « Non ?» Et il demande « Qu'est-ce que tu fais ?» Il lui répond « Cherche de la drogue. » Tout en se mettant en route, elle lui demande « Qui es-tu ?» Mon père est directeur commercial et ma mère, relations humaines. Ils sont du groupe Franc-Blanc. Et moi, lorsque j'aurai le temps, j'aurai des études de lettres. Elle lui dit, des études, c'est un truc de bourgeois. On devrait donner les diplômes comme ça. C'est une drogue, c'est à cause de tes vieux cons. Si tu... je peux te donner de la drogue, j'en ai. Oui, je veux bien. Allez, on y va. Lui demande, tu es qui? Elle lui dit, toi aussi tu poses des questions, t'es un flic? Elle lui dit, non, mais toi tu m'en as posé. Elle fait l'énerver parce qu'elle n'aime pas qu'on lui montre les choses contradictoires qu'elle fait. Je m'appelle Arlette Liguier, j'ai 22 ans. J'ai un père qui vit à Vénissieux et travaille à la mairie dans le service d'entretien, c'est-à-dire qui sort les poubelles. Et il est du parti comme moi. J'habite rue des Capucins, dans le premier. Et toi?
Moi? Hein?
Oui, toi! Guillaume Larville. Je vis chez mes parents. La Charbonnière, il aime son côté franc et lui parle comme un adulte. Et puis, elle ne le juge pas. Pour elle, c'est la faute aux autres s'il est comme ça. Et ça lui plaît. après une longue marche à pied, ils n'ont presque rien dit. Ils arrivent à cette rue des Capucins, la rue dégueulasse, mal famée. Ils montrent un vieil immeuble de 4 étages défraîchi, presque en ruine. C'est là que j'habite. Viens, il la suit. Comme d'habitude, l'allée est sombre. C'est un vrai dépotoir. Ça sent mauvais. Elle lui dit, fais pas attention à l'allée. Il lui dit, j'ai l'habitude. Elle lui dit, je comprends, c'est au dernier. Il monte des vieux escaliers de pierre usés, remplis de détritus. Arrivé au dernier étage, elle lui dit, c'est plus haut. Ils ont aménagé des greniers, les bourgeois, en studio. Il manque des escaliers de pied de bois poussiéreux. Suivent un long couloir, il y a des portes en bois. Elle ouvre la troisième porte. Éclair, entre. Petit studio avec un lit à deux places, une table, un vrai foutoir, des tas de choses dessus, le coin cuisine, des rayons au mur avec des livres, une autre table en face de celle de l'entrée qui doit servir de bureau. Et puis il y a une porte qui donne à un salle d'eau WC. Le lit n'est pas fait. Elle lui dit, voilà, c'est chez moi, c'est tranquille. Les fenêtres donnent sur les toits. Bon, eh ben, je peux te donner un peu de ce que j'ai. Elle va à la bibliothèque, prendre entre les livres un petit sachet. Tiens, merci. Tu peux fumer si tu veux. Il lui dit, merci, j'ai mieux fumé seul. Il est gêné d'être avec cette fille dans cette pièce. Elle ne l'attire pas, mais c'est tout de même une femme. Il lui dit, salut, merci. Elle lui dit, attends, tu vas pas partir comme ça. J'ai envie de me faire prendre. Le sexe, c'est normal. Mais les sentiments, c'est des idées de bourgeois. Il est surpris. Elle lui dit, « Alors, c'est oui ou c'est non ? Mais on ne reste pas comme ça, hein ?» Ça m'énerve de rester comme ça. Il lui dit timidement, « Oui ?» Elle dit, « Bon, alors, allons-y. » Elle quitte son blouson. Un blouson noir. Son t-shirt. Et apparaît des seins. Elle ne porte pas de soutien-gorge. Ils ont fait l'acte sexuel. C'est elle qui a guidé. Elle a dépucelé. Lui honteux était obligé de lui dire que c'était la première fois. Ils sont nus sur le lit. Il est endormi sur son épaule. Elle lui caresse ses cheveux. Elle le trouve beau, touchant, malgré elle. Elle le trouve touchant, oui. Parce qu'il a l'air si fragile, un vrai gosse. Puis, il s'est réveillé. Elle lui demande, content ? Il répond, oui. Elle lui dit, c'est le principal. Mais ne t'attache pas trop à moi, parce que tu es un sale pute de bourgeois. Le peuple, il n'y a que ça. Et le peuple prendra le pouvoir. Il y en a assez d'être esclaves des bourgeois. Service de chair à canon. À ces guerres qui ne me regarde même pas. Elle continue à lui parler de la lutte des classes et fume même un peu. Lui est fier. On lui parle comme un adulte. On lui dit des choses franchement. La bourgeoisie, c'est de la merde. Ils dominent le monde par leur force, leur fric. Toi, ils te dominent. Pourtant, tu es des leurs. Et regarde ce qu'ils ont fait de toi. Un taré. Un taré qui est obligé de toujours demander à genoux à papa, maman du fric au lieu qui te disent d'aller travailler. Non, ils cherchent à te rendre esclave, être un esclave, pour te mettre de leur côté. Ils veulent que tu dépendes d'eux pour être de leur côté. Tu comprends? Il lui dit, oui, tu as raison. Il faut toujours que je pleure pour demander de l'argent. Elle lui dit, tu devrais travailler à l'usine pour te libérer de la bourgeoisie. Il dit, oui, tu as raison. Mais là, il se voit en David Copperfield, dans son usine de cirage, où sa famille l'a forcé à aller travailler. Je n'en sens pas le courage. D'accord, ses parents sont des fumiers de bourgeois. Mais lui, se voit pas vivre dans une classe inférieure de sous-prolétaires parce qu'ils sont plus purs. Travailler des heures pour un salaire de misère et vivre comme ça, non. Et puis elle, qu'est-ce qu'elle fait? Il lui demande, qu'est-ce que tu fais toi? Elle dit, je poursuis des cours pour être psychologue. C'est pour aider les défavorisés. Bien sûr que j'ai choisi ces études utiles. C'est dur, mais j'y arriverai. C'est pour le peuple. Ah oui, alors, tu as raison. Ils se sont quittés. Ils décident de se revoir. Il est heureux. Elle le prend pour un adulte. Et c'est une fille bien, malgré ses idées bizarres. Mais en y réfléchissant bien, c'est pas si bizarre que ça. C'est vrai, quoi. On devrait donner les diplômes comme ça. Lorsqu'il arrive chez ses parents, il est encore sous l'effet des discussions et plein de ses idées. Il se croit un homme. Parce qu'il n'est plus puceau et qu'il a des idées sur la société. Même si c'est assez confus et qu'il n'adhère pas à toutes les idées. Lorsqu'il rentre, la domestique dit « Madame m'a dit de vous dire que lorsque vous serez rentré, c'est d'aller rejoindre au salon. » Il se dit « La bonne. » Et même du côté de la bourgeoisie. Elle est autant outrée que ma mère que je sois en retard. Pauvre fille. Ils l'ont bien asservie. Elle lui dit, ne t'en fais pas Marie, va. Le temps de ta délivrance vient. Tu ne seras plus obligé d'être du côté de tes maîtres. Ils te l'ont forcé. En te farçant le cerveau pour être leur esclave, pauvre fille. Marie lui dit, mais qu'est-ce que vous dites, monsieur? Guillaume tourne la tête de gauche à droite et lui dit, pauvre fille, ne t'en fais pas, je vais voir la reine-mère. et il la quitte. La bonne se dit, il est complètement fou. Rentre au salon sans frapper. S'assoit. Elle est assise, prend son petit déjeuner. Elle lui dit, ah, te voilà. Il lui dit, oui madame, je suis là. Elle lui demande, et qu'as-tu fait cette nuit? Il lui dit, j'ai fait l'amour avec une fille charmante. Et qui veut libérer le peuple de l'oppresseur bourgeois. Je suis un homme maintenant. Et il la quitte. Pour aller dans sa chambre. Il est content de la retrouver et de retrouver son lit, un lit bourgeois qui est tout de même plus doux que celui du peuple. Parce que chez Arlette, il a senti que le matelas était un peu mince et que l'on sentait les ressorts. Ça allait avec la fille qui est tout en os. Mais enfin, c'était bien. Quelle fille ! Les communistes libertaires, ils savent faire l'amour. La mère, toute retournée, prend son téléphone à son bureau pour téléphoner à son mari. Allô ? Oui, c'est moi. Je te téléphone. Parce que ton fils est devenu de sa nuit bizarre. Il m'a dit qu'il n'était plus vierge. Il rit, dit, mais ce n'est que ça. Ce n'est rien. Je crois un homme. Mais c'est bon pour son développement. Ça va le rendre plus mûr. Et tu sais que c'est qui est la fille ? Elle lui répond, sûrement pas. De notre monde. Aucune importance. Ce n'est que la première fois. Après, il choisira. Ça doit être une fille quelconque, une fille de peuple. C'est mieux qu'il fasse ça avec une fille comme ça. Qu'une fille de notre connaissance. Et puis, ça ne se fait pas. Une fille de notre milieu. Puis ça aurait été ennuyeux. Et puis, on ne se dépulse pas avec une fille de chez nous. On la respecte. Pour les choses sans importance, il y a les filles du peuple. Ils se voient souvent. Son acte sexuel. Et en plus, il fume. Ça, c'est un plus qu'il aime. Il n'a plus besoin d'aller place du pont. Ouf! Bien sûr, elle le saoule avec ses histoires de classe. Mais il faut bien qu'elle se défoule. Et puis, lui, il doit bien un peu de sacrifice en l'écoutant. Vu ce qu'elle lui apporte. Elle lui dit, surtout, lorsqu'il fait le gosse, attention! Tu ne dois pas t'attacher. Pas de sentiments entre nous. Tu es un homme. Alors, libère-toi des vieux, de tes vieux, et vis seul. Oui, vis seul. Là, il ne se voit pas vivre seul. Ça lui fait peur, mais il ne veut pas lui dire. Des fois, après l'amour, il peut s'empêcher de lui dire. Je t'aime, tu es tout pour moi. et loue ses épaules énervées et lui dit « Arrête de parler comme ça, tu es bête. Tu aimes ce que nous faisons, voilà tout, les sentiments. Tu dois les garder pour le peuple, tu comprends ? Espèce de bourgeois. » Et elle rit, elle lui donne un baiser sur le nez. Et elle lui dit « Mais qu'est-ce que je fais, moi, avec ce gosse ? Qu'est-ce que je fais avec toi ?» Et lui dit « L'amour. » Malgré elle, elle a l'affection pour lui. Elle a l'air si fragile. Et puis les beaux garçons, un côté un peu gamin peut-être, mais de beaux yeux verts. Pourtant, elle n'aime pas les blonds aux yeux clairs, parce que pour elle, ils représentent le fascisme nazi. Cette idée absurde est venue chez les gauchistes primaires, parce que les Allemands sont pour la plupart blonds. Et comme ils étaient nazis, donc blond égale nazi. Ceux qui sont contre le racisme sont racistes contre blond. Ils jugent les gens par leur couleur de cheveux, non sans savoir ce qu'ils sont. Mais là c'est normal, parce que c'est eux qui ont décidé, donc ils ont le droit d'être contre blanc. Contre blond, je veux dire. Puisque le blond symbolise le crime nazi, le noir, l'humiliation, le peuple réprimé, cheveux ou sans cheveux, etc., etc. Et cette brave fille est farcie d'idées bien pensantes de gauche communiste. Elle n'y peut rien, elle est née là-dedans. Mais cela peut créer des difficultés pour les relations humaines et pour se faire des idées sur les gens d'une façon claire. Elle voit tout du côté militante, politique et MLF. La plupart des femmes sont toujours des victimes, d'après elle. Elle est une femme et pourtant elle dirige tout. Mais c'est normal, c'est une femme libérée de l'esclavage de l'homme qui a duré des millions d'années. Elles oublient, c'est d'enlever les quelques milliers d'années de matriarcat. Guillaume est heureux, malgré qu'elle saoule d'idées toutes faites et qui lui fait peur. Il a peur parce que si ses idées étaient mises en exécution, il se trouverait à la rue, sans argent. Et lui ne veut pas travailler pour faire un travail de con. Parce que Guillaume prend des idées de gauche, mais ne supporte pas, comme beaucoup de gauchistes, de gauchards, le peuple. Parce qu'il le voit bête, sans culture, violent, faisant un travail de con. Non, il veut bien être de gauche, mais garder ses privilèges de droite, c'est-à-dire son argent de poche, aller à l'université quand ça lui plaît, retrouver ses biens chez ses parents, etc. Et non, d'être entouré d'ignares, qui pour lui, le peuple, ressemble à des sauvages, tout aussi éloignés que des pygmées, et qui ne parlent pas son langage, mais un langage ignoré de la culture, et qui acceptent avec joie de faire des travaux bêtes et ignares, etc. Lorsqu'il rentre chez ses parents, il va tout de suite s'enfermer dans sa chambre, mettre un CD qu'elle lui a prêté, un truc violent, et qui crie. Sa mère n'en peut plus. Laisse-le faire, c'est l'âge. Il va bientôt changer. Il a dû tomber sur une fille du peuple. Mais ça va pas rester long, il va pas rester longtemps avec elle. Il va vite la laisser tomber. Il voit sa mère que pendant les repas. Ça se passe en silence. Il va de temps en temps à l'université. Alors, elle lui fait distribuer des tracts, genre Jules Vallée, Sartre, Aragon, bien sûr, Léline, etc. Il trouve ça chiant. La nuit, lorsque tout le monde dort, il sort de sa chambre pour aller à la cave prendre des bouteilles. Des bouteilles de vin. Parce qu'en plus du cannabis, il picole dans sa chambre. Sous son lit, il y a des tas de bouteilles vides. C'est un homme, lui. Un vrai. Et les hommes boivent. Des fois, elle est de mauvaise humeur. Alors, elle ne veut pas lui donner de cannabis. Elle lui crie, « Tu me fais chier. Va la chercher toi-même, place du pont. » Il lui dit, « Mais ma chérie, je suis pas ta chérie. Bourgeois, je ne serai jamais la chérie de personne. » Il fait un geste pour l'embrasser. Elle se dégage. « Non, fous-moi la paix. Je sais que tu fais ça parce que tu veux ta dose, hein? Eh bien non, va. Va la chercher. » Il lui dit, bou. Il boude, elle aussi. Il lui demande, alors tu veux pas m'en donner? Non, et non. Il soupire. Tu ne m'aimes pas. Tu sais que je n'aime pas y aller. Je suis pas ta bonne. Il voit qu'il ne peut rien en tirer. Cette garce, il n'aime pas la voir, cette fille. Lorsqu'elle est comme ça, elle est impossible. Il lui dit furieux, « Bien, j'y vais. Eh bien, vas-y. » Et il va furieux. Eh bien, à la place du pont, il n'est plus y aller. Il a un peu peur. Puis il a perdu l'habitude d'y aller depuis qu'il est avec elle. Alors, bien sûr, comme il y va moins, il a plus peur d'y aller qu'avant, surtout qu'il voit des voitures de police garées. Heureusement qu'il est un peu connu. Et dès qu'on le voit, un dealer vient à lui et il fait signe qu'il l'a reconnu et il fait signe d'aller un peu plus loin dans une allée pour faire l'échange. Dès que la chose est faite, il se sauve. L'endroit n'est pas sûr. Thank you. et va s'enfermer dans sa chambre. Un après-midi, il est dans sa chambre à fumer un joint. On frappe à la porte. Vite. Il éteint son joint. Le cache sous le lit. Entrez. Son père. Il dit, ça sent mauvais ici. Faut aérer. Il ouvre la fenêtre. Nous vous avons présenté, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le garçon aux yeux verts. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.